en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce Lachenardière.
Marivaux, un philosophe et l'amour, un cycle de 4 émissions préparé et présenté par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie. Pour la prise de son et la réalisation, Lucien Pénaud. Pour cette troisième émission, je reçois Geneviève Fraisse, philosophe, directeur
ou directrice
de recherche au CNRS. Geneviève Fraisse, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir ici à Canal Académie. Pour accompagner notre réflexion, j'ai choisi des extraits des Boréades de Jean-Philippe Rameau, l'exact contemporain de Marivaux. Souvent, chez Molière, nous avons affaire à des personnages de jeunes gens ou de jeunes filles qui sont sous la tutelle paternelle, comme par exemple Cléante et Élise, les enfants d'Harpagon dans l'Avare, ou Agnès, pupille d'Arnolphe, dans l'école des femmes. Ce père ou ce tuteur choisit pour eux le mari ou la femme qu'il leur faut. Chez Marivaux, né, je le rappelle, en 1688, c'est-à-dire au fond 2 générations seulement après Molière, ce schéma a totalement disparu. Nous avons affaire avec Marivaux à des personnages libres de toute parentèle qui choisissent eux-mêmes le partenaire qu'ils souhaitent. Et si, exceptionnellement, un père apparaît, par exemple Monsieur Orgon, le père de la Sylvia du jeu de l'amour et du hasard, il laisse sa fille libre de son choix. Il lui propose un mari, certes, mais il précise à Sylvia qu'elle peut consentir ou non à ce mariage. Que s'est-il donc passé depuis Molière? D'où vient ce changement, Geneviève Fraisse?
Je trouve ça vraiment très important de mettre l'ombre de Molière pour aborder Marivaux sur cette question du consentement et de l'amour entre deux jeunes personnes et du rapport des parents à ces personnes. Alors c'est vrai que le mot de consentement intervient là de manière étonnante parce que au fond Marivaux marque une charnière. On va avoir sans cesse, si on lit Marivaux, on va sans cesse trouver l'expression « j'y consens ». Alors c'est j'y consens, ça veut dire je suis d'accord. Alors c'est pas seulement pour se marier ou dire qu'on est amoureux. Donc on voit que ce sens de je suis d'accord, qui est finalement un sens encore présent aujourd'hui, mais qui a un petit peu diminué, change justement au moment où Marivaux arrive pour raconter comment des êtres humains vont pouvoir se choisir pour l'amour et le mariage. Et on va passer au deuxième sens de consentement, qui au fond surgit dans ce début du XVIIIe et venant de la fin du XVIIe, c'est non pas « j'y consens, je suis d'accord », mais « je consens », c'est-à-dire « je décide, j'ai la volonté de ». Donc dans ce petit grec qui disparaît, en fait, l'accentuation qu'on va mettre sur le deuxième sens de consentement, à savoir « je veux », je souhaite, j'aime et j'épouse, et non plus celui de je suis d'accord qui peut être dit par n'importe qui dans le cours de toutes ces pièces. Si on les regarde de près, ça revient tout le temps, que ça soit le père qui dit j'y consens à quelque chose que demande sa fille, ou bien que ça soit j'y consens simplement pour la suite de l'action dans la pièce. Donc ça, c'est la première chose. Et si je le dis, c'est parce que on voit bien que ce mot de consentement qui va prendre une telle importance dans l'ère démocratique, c'est-à-dire après la Révolution française, qui est aujourd'hui l'acte de liberté, consentement et liberté sont superposés, c'est ce que Marivaux met en place. Maintenant, c'est vrai que ce qui est drôle aussi, c'est que bon, on a beaucoup de... j'ai des occurrences, par exemple, Sylvia dans La double inconstance dit « il me passe tant de oui et de non par la tête ». Ou bien la comtesse dans La fosse suivante dit « peut-on mettre une femme entre le oui et le non ? Quelle brusque alternative ! Y a-t-il rien de plus haïssable qu'un homme qui ne saurait deviner ?» Là, on sent le passage, justement, parce qu'on lui demande au fond de savoir oui ou non, et elle, elle aimait bien l'ancien temps où il fallait, ou le temps juste d'avant, où toutes ces choses-là ne se disaient pas avec le oui et le non. Donc c'est une nouveauté. Donc c'est une nouveauté. Maintenant, on pourrait dire plus encore. C'est-à-dire que dans le débat que les personnages ont avec eux-mêmes, ont entre eux, mais aussi avec eux-mêmes, c'est un espace qui s'est ouvert de s'avouer l'amour à soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les implicites de la devinette ou des suppositions, mais on est dans l'expression des choses. Et alors il y a un autre mot qui me paraît important, c'est le mot d'aveu. C'est-à-dire qu'il y a un rapprochement entre le consentement et l'aveu. Alors on avoue à l'autre, mais aussi on avoue à soi-même. Et ça me fait penser que, c'est une expression que j'ai envie de souligner, qui c'est dans les Pensées de Pascal. Il dit, je crois que là on voit l'amplitude subjective qui s'est mise en place au XVIIe siècle, il dit c'est le consentement de vous à vous-même. Vous voyez, quand on peut parler du consentement de vous à vous-même, c'est que donc une distance s'est établie pour ce oui et ce non à l'intérieur de soi et pour pouvoir l'exprimer auprès de l'autre. Là, je pense que Marivaux accompagne ce passage fortement, oui. Par ailleurs, l'autre chose intéressante vis-à-vis du consentement, c'est que on le trouvera ça dans La double inconstance. C'est l'idée qu'il va y avoir une réciprocité dans la rupture aussi, c'est-à-dire dans la séparation, puisque ce sont des êtres qui devaient être ensemble et qui finalement choisissent d'autres. Et là, il y a cette expression « consentement réciproque de rompre leur première chaîne ». Et pourquoi j'insiste sur le consentement réciproque ? Parce que là, c'est comme le consentement mutuel qu'on trouvera avec les lois sur le divorce à partir de la Révolution française et du XIXe siècle. Et en fait... c'est déjà en place avec le 17e, notamment sous la plume d'un Anglais qui s'appelle John Milton et qui rédige cet opuscule au milieu du 17e sur le droit au divorce qu'on souhaiterait. Vous savez, ça n'existe pas, il n'y a que la séparation de corps. Et il faut là le consentement réciproque. Et là, on voit aussi une... Alors, ça n'apparaît pas beaucoup chez Marivaux, parce qu'en général, il ne parle pas beaucoup de rupture, il parle plutôt de rencontre et d'adhésion. Sauf dans La double inconstance, où il y a ce consentement réciproque à rompre la première chaîne. Ça, je trouve ça aussi assez remarquable. Voilà, peut-être je pourrais ajouter aussi que nous n'avons pas nécessairement aujourd'hui une idée si claire de ce que représente la notion de consentement. La question de l'explicite et de l'implicite n'est finalement pas toujours... Le consentement tacite est toujours là, ou le consentement éclairé est toujours souhaité. Donc ce mot de consentement, s'il a ce passage d'un sens à l'autre, fin 17e, début 18e, et où il trouvera toute son ampleur chez l'individu démocratique après la fin du 18e siècle et au 19e siècle, le sens, l'univocité du mot consentement n'est pas plus donné aujourd'hui. C'est un mot extrêmement complexe. Et de ce point de vue-là, qui me séduit assez, je dois dire, pour lire des auteurs, notamment quand ils traitent de l'amour.
Ainsi, n'étant plus sous tutelle, les personnages de Marivaux ont la possibilité d'acquérir une liberté nouvelle, en fait. C'est ça que vous dites aussi, Geneviève Fraisse. Mais cette liberté, ils ne l'ont pas d'emblée, ils l'acquièrent justement devant nous, pendant le temps de la pièce, car c'est précisément cette acquisition, justement, qui fait l'objet de la pièce. Ce choix personnel est une liberté possible, mais elle est difficile. Ne serait-ce pas un nouveau droit à conquérir ?
Alors, oui, c'est un nouveau droit, et on peut parler, de ce point de vue-là, du rôle que joue le père et la mère, ou éventuellement la mère, dans la pièce de Marivaux. Peut-être ce qu'il faudrait dire auparavant, c'est que parler de l'amour n'est pas quelque chose hors du temps et hors de l'histoire. On a dit que Marivaux était un peintre de l'amour, il y a là une raison pour avoir dit cela. Chez Molière ou chez Beaumarchais, on verra les histoires s'entrecroisent avec d'autres histoires, soit morales, soit sociales, etc. Donc si Marivaux est concentré sur cette question de l'amour, je crois que c'est parce qu'il écrit dans ce tournant du siècle et que la question de l'amour a pris l'espace pour parler de l'amour. C'est avéré possible. Quand je dis ça, ça pourrait surprendre. On peut penser que n'importe quel texte de n'importe quelle époque, on va trouver des textes sur l'amour. Mais je crois néanmoins qu'à certains moments, c'est rendu possible, ou en tout cas identifié comme tel. J'en veux pour preuve cette fameuse lettre de Descartes, alors là je fais quelques décennies en arrière, qu'il écrit à Chanut le 1er février 1647 et qui est extrêmement connu. Et cette lettre à Chanut dit « Écoutez, vous me posez la question de l'amour. Bon, que vais-je faire? J'ai plusieurs possibilités. Je vais vous dire quelles sont les différentes passions, à quoi ça renvoie. Mais enfin, la nature de l'amour nous est difficile à connaître, dit Descartes. Elle nous est difficile à connaître. Il faudrait écrire un gros volume et dire plus de choses que je ne sais, ajoute cet auteur en fin de vie. Et alors, il dit à Chanut, je vais me retenir, de peur que la longueur de cette lettre ne vous ennuie. C'est-à-dire, comme il faudrait faire long, je vais faire court et je vais rien vous dire, ou presque. Et je trouve que, au fond, 50 ans ou 70 ans plus tard, un auteur peut dire, moi, je vais parler de l'amour et vous raconter l'amour. Et c'est ce que, je crois, j'ai lisant comme ça Marivaux de façon cursive, grâce à votre émission, avec plus de ténacité que le simple spectacle de l'une ou l'autre des pièces, c'est vrai que je me suis dit, il est en train de répondre à Chanut, à la place de Descartes, ou ce que Descartes pouvait annoncer comme quelque chose de possible, mais qu'il n'allait pas faire. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est avant le droit, c'est simplement que l'espace soit là pour pouvoir dire, parler, écrire, réfléchir à la question de l'amour de façon assez pure, comme vous le disiez vous-même. La seconde chose, et là, ça va vers le sens du droit et donc le sens de votre question, c'est quel est le rapport que les jeunes gens, et notamment les jeunes filles, les jeunes Sylvia et autres jeunes héroïnes de Marivaux, vont avoir avec leurs ascendants. Car au fond, je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure, le consentement, c'est le consentement du père ou c'est le consentement des parents au mariage, à l'amour, etc. C'est-à-dire, on va demander le consentement quand on disait... Nous, il nous est resté, je vais demander la main à ton père ou à ta mère ou à tes parents, même si c'était une formule pour rire, cette fin de XXe siècle. Néanmoins, il fallait le consentement des parents, oui. Et même c'était...
L'autorisation même.
Et alors c'est ça, c'est vraiment le mot de consentement, c'est-à-dire entre le consentement du père, oui ma fille, et le consentement de la fille qui dit j'aime un tel ou un tel, au fond on est passé du sens de consentement comme relevant de l'autorité de la génération précédente, au consentement comme liberté. Alors maintenant qu'on a dit ça, ce qu'on voit, c'est assez intéressant dans les textes de Marivaux, c'est que les pères sont charmants. Et les pères rentrent volontiers dans les ruses des filles, d'ailleurs, dans les travestissements, etc., pour tester l'amour de l'autre ou les prétentions de l'autre à l'amour ou au mariage. Et... Donc les pères sont souvent, comme ils disent, « j'y consens, ma fille, puisque c'est ça que tu souhaites », etc. Et on a souligné plus d'une fois, donc on a des pères charmants, plutôt coopérants, complicité, écoute, capable de changer d'avis si les enfants le souhaitent, etc. Et puis, je lisais qu'il n'y avait pas de mère dans Marivaux, donc ma curiosité aiguisée par cette remarque, je suis allée voir et j'ai trouvé quand même trois pièces de théâtre vraiment intéressantes pour parler du rapport mère-fille quant à la question de l'amour. C'est La Colonie, premier texte, deuxième L'École des mères et troisième La mère confidente. Et alors ce qui est intéressant, moi j'ai pris les trois pièces l'une après l'autre. Dans La Colonie, qui est une sorte de Lysistrata qu'on connaît très mal de Marivaux et qui est vraiment intéressante parce que donc les femmes veulent demander aux hommes de partager le gouvernement, la chose publique, etc. Mais là j'ai pris juste le regard que une mère porte sur sa fille qui est amoureuse et qui n'en a pas grand chose à faire de la révolte de la génération précédente des femmes. Et elle a plutôt envie de dire à sa fille, écoute, pas d'amour, puisque nous devons subvertir cet ordre masculin insupportable. Donc là, on a une mère d'une part autoritaire et d'autre part qui dit à sa fille, non, l'amour laisse un peu ça de côté, il y a des choses plus importantes. Bon, première figure de mère. Deuxième figure de mère, L'École des mères. Alors là, pour des raisons de bienséance, de morale, de vertu, c'est la mère qui doit choisir le prétendant de sa fille ou le futur époux de sa fille, dont c'est un désastre mère-fille absolu, avec la fille qui résiste, etc. Et troisième, et c'est beau parce qu'on a vraiment un triptyque, et troisième pièce, La mère confidente, où là, la mère est à la fois la mère et la complice de la fille, passant d'un personnage à l'autre, essayant... si nous sommes mères aujourd'hui, c'est assez drôle parce qu'on peut tout à fait s'identifier à cette femme qui veut être à la fois mère et à la fois amie de sa fille, et là qui au contraire veut aller au-devant des désirs de sa fille. Donc au fond, on a trois personnages de mère, l'une qui voudrait refuser l'amour à sa fille pour des raisons politiques, l'autre qui voudrait le refuser pour des raisons de bienséance morale et un peu caricaturale, et la troisième qui veut bien suivre le désir, donc être du côté de ce que sont les pères chez Marivaux. Donc voilà, je tiens à restituer habituer la présence des maires dans Marivaux et aussi montrer à quel point cette question donc d'acquérir ce droit à l'amour et donc l'aveu qu'on se fait à soi-même de l'amour est si important.
Dans le jeu de l'amour et du hasard, Sylvia s'explique sur le mari qu'elle souhaiterait et elle dit ce qu'elle pense du mariage à Lisette. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère et cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. Les hommes ne se contrefont-ils pas, surtout quand ils ont de l'esprit ? N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissais avec leurs amis les meilleurs gens du monde ? C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur un tel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours d'Ergaste. Ainsi l'est-il, répondait-on. Je l'ai répondu moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot. Oui. Fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergaste s'est marié, sa femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui voyons et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Le jeu de l'amour et du hasard, acte premier, scène première. Chez Marivaux, ce qui frappe immédiatement, c'est l'expression libre des personnages. Ils cherchent, par le langage, à découvrir la vérité de leurs sentiments, de leurs agissements, à s'éclairer eux-mêmes. Cette quête de vérité qui meut tous les personnages, que ce soit dans la relation du valet au maître ou bien sûr de manière éclatante et affirmée dans la relation amoureuse. Geneviève Fraisse, pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Peut-être un mot finalement à propos de Lisette et de ce passage que vous lisiez, parce que juste après la scène 2, Lisette dit « Oui, nous parlions d'une physionomie qui va et qui vient. Nous disions qu'un mari porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. » À l'opposition entre masque et grimace, je trouve là est le lieu à la fois de la question de la vérité de l'amour et la question aussi de la représentation de l'espace privé, de l'espace public. De ce point de vue-là, je dirais que le jeu de l'amour et du hasard annonce une critique sociale qui n'est pas le cœur du problème chez Marivaux, qu'il sera peut-être plus évidemment chez Beaumarchais dans les rapports maître-serviteur ou suivante, d'ailleurs le mot suivante, hein, y aurait des choses à dire, hein, qui est suivante et pas seulement servante. Mais moi, ça m'a tout d'un coup, je l'ai lu autrement ce titre pour Lisette ou d'autres. Mais disons que l'opposition entre l'espace extérieur et l'espace intérieur, donc le lieu de la relation à la femme et le lieu de la relation à l'espace public entre la grimace et le masque, effectivement pointe le fait que ce que Marivaux aime avant tout, c'est la vérité. Mais disons, cet aspect social des choses ne me paraît pas le plus... me paraît marginal par rapport à l'ensemble, enfin à la question que pose Marivaux tout le temps, c'est « Y a-t-il tromperie ? Et est-ce de la vérité ?» Et là, je dois dire que on voit que c'est pour ça que ces pièces sont finalement extrêmement épurées, parce qu'elles posent toute cette question-là, et seulement cette question-là. Et finalement, le contexte, l'aspect social est assez secondaire, je dirais. Et même la relation maître-serviteur, je la trouve Enfin, ce n'est pas la question de la servitude ou de la domesticité qui est posée. Et d'ailleurs, je trouve que L'île aux esclaves, qu'on fait lire dans nos écoles, et notamment pour le baccalauréat français, ne me paraît pas être la pièce la plus fine et la plus excitante, parce qu'elle est un peu, elle est géométrique, quoi. Elle est mécanique ou elle est géométrique, je sais pas quel mot il faut employer. Et ça m'a beaucoup déçue de la lire comme ça, au milieu du reste. Je l'ai trouvée finalement peu intéressante, puisque c'est donc l'inversion maître un serviteur, alors que tout ce qui est le jeu de l'amour, du hasard, des confidences et des inconstances ou des fidélités, révèle une seule préoccupation, qui est celle de la vérité de l'amour. Alors, je me suis arrêtée sur un terme. Bon, on sait bien qu'un des premiers écrits de Marivaux s'appelle « L'amour et la vérité », que l'amour se retire dans l'arbre et que la vérité retourne dans son puits. Mais surtout, j'ai trouvé cette expression employée par le journal de Mercure, donc qui est le lieu du commentaire, et qui parle de la métaphysique du cœur, qui régnerait un peu trop dans les textes de Marivaux. Et je me suis évidemment arrêtée à ce mot de métaphysique du cœur, en me disant, bon, pourquoi métaphysique ? Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, déjà, on peut commenter métaphysique, on peut commenter cœur. C'est-à-dire, si c'est métaphysique, ça veut bien dire que c'est un au-delà, du phénomène, on dirait aujourd'hui, mais au-delà des choses matérielles. Je rappelle que Bossuet, il appelle la métaphysique quelque chose qui est de l'ordre des choses immatérielles, et que c'est la définition qui sera reprise par Voltaire, ce qui n'est pas matière. Donc au fond, la métaphysique du cœur, c'est au-delà de l'apparence, certes, et au-delà des choses très matérielles, on arriverait à une vérité. Donc le mot métaphysique est là pour parler de la vérité, au sens où Descartes s'est posé la question de la connaissance de Dieu autrement que par la théologie, peu de temps avant. Et puis, donc, il y a ce mot métaphysique, alors, qui va avec cœur. Alors, le mot cœur, eh bien, c'est le fond du cœur, c'est consulter son cœur, c'est ce cœur tout pur qui parle, etc., etc. On va trouver comme ça, c'est le lieu de la vérité, le cœur. C'est là que ça se passe, et tout le reste finalement c'est immatériel, le cœur. Donc voilà la métaphysique, tandis que le reste, eh ben, c'est éventuellement du matériel et pas nécessairement le lieu de la vérité. Ça nous permettrait aussi peut-être de déplacer l'expression marivaudage, parce que faut en dire un mot quand même. Vous savez, c'est comme épicurisme, ce sont des mots qui ne correspondent plus effectivement à ceux qui en ont énoncé. On pourrait aussi aller voir du côté de masochisme, par exemple, mais en tout cas, épicurisme ne renvoie pas nécessairement à la philosophie épicurienne, et marivaudage, qui est cette gourmandise ou ce libertinage ou cette superficialité de certaines relations, est en fait l'exact, disons, complément ou opposé, je ne sais pas, de cette métaphysique du cœur qui occupe fondamentalement Marivaux. Donc voilà pourquoi aussi il prend tout. Alors, vous parliez de masque, là c'était sur l'aspect dedans. Dehors, mais les travestissements, les masques et les travestissements, c'est quand même le ressort dramatique de toutes les pièces de Marivaux. Comment on fait semblant d'être le valet pour tester la jeune femme, ou d'être la servante pour tester le prétendant. Enfin bon, comment on se masque et on se travestit, et sans doute il faudrait distinguer les deux termes pour obtenir la vérité ou mettre l'autre en situation d'être sincère. C'est ça qui permettra de dire ce que le cœur pense et ce qu'on s'est avoué à soi-même, comme on le disait tout à l'heure à propos du mot de consentement. Alors, un instant quand même sur le mot cœur. Parce que cœur, ce n'est pas l'amour. Alors pourquoi je dis cela ? Parce que exactement au moment où Marivaux écrit, c'est-à-dire beaucoup entre les années 15 et 40 et un peu plus, dans les années 25, il y a un personnage extrêmement important qui tient salon mais qui écrit aussi, qui s'appelle Madame de Lambert. Et le rapport à l'Académie. Mais surtout, cette femme écrit un certain nombre de textes qu'on peut trouver publiés aujourd'hui chez Honoré Champion, par exemple. Et elle a publié un texte qui s'est appelé, finalement, pas toujours au début, c'est d'abord Réflexion nouvelle sur les femmes, et Métaphysique de l'amour. Alors, ce texte, elle a du mal à le publier, on le publie malgré elle, finalement, elle accepte de le publier, etc. Et c'est intéressant parce qu'elle répond aussi bien à Molière qu'à Fénelon, en gros, pour défendre des choses très, très émancipatrices du côté des femmes, mais finalement émancipatrices, c'est-à-dire elles trouvent Fénelon trop compassé, elles trouvent évidemment Molière trop critique, mais surtout, bon, elles défendent une émancipation par l'intelligence des femmes, mais elle est d'une certaine façon obligée d'en passer par la vertu des femmes. C'est assez difficile d'être dans la position féminine et de réclamer l'amour sans garde-fou vertueux. Donc là, je m'écarte un peu de Marivaux, mais c'est un peu pour situer là où Marivaux va se trouver, parce que lui, je pense, comme sujet masculin ou comme écrivain masculin, a plus de liberté d'écriture finalement. Donc plus de légèreté dans la description de l'amour, et en même temps, ils sont très proches, je crois, par la rigueur, donc par la vérité qu'ils supposent dans leur métaphysique. Alors l'un du cœur et l'autre de l'amour. Je trouve ces termes intéressants, d'autant que aujourd'hui certains ont repris pour les critiquer ce qui serait la métaphysique du sexe, puis la métaphysique de la sexualité. Voilà quels seraient les termes de notre époque ou du siècle ou du XXe siècle. Mais on voit à quel point ce mot de métaphysique finalement suit son chemin par rapport aux questions de sexe, d'amour, de relations homme-femme, comme le lieu de la vérité. Hein, c'est-à-dire au-delà de l'apparence, du phénomène, dirait-on, donc bien après l'époque dont nous parlons, mais qui était de l'ordre de l'immatériel, donc donnant raison à la matière, des sens. Ça n'exclut pas les sens, mais ça les met pas nécessairement à une place. Marivaux est plus libre de ce point de vue-là que Madame de Lambert, mais disons, ils étaient non seulement contemporains, mais interlocuteurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce qu'une femme peut écrire, et dans cette même recherche de la vérité. Il y a un autre passage comme ça, mais on pourrait les multiplier à l'infini, c'est, il y a l'avertissement des serments indiscrets où Marivaux s'explique, et où il parle évidemment des mouvements du cœur. Il dit « Ce n'est pas moi que j'ai voulu copier, c'est la nature. » Bon, j'essayais d'échapper à ce mot « nature » pour décrire ce qu'est la métaphysique du cœur et ce qu'est le rapport à la vérité. Mais au fond, après, ce mot de nature va faire fortune. Mais dans un autre sens, si moi je regarde, et ils ont un petit peu évidemment de distance dans le temps, mais pas tant que ça. Si je regarde comment Jean-Jacques Rousseau s'est débrouillé avec le terme de consentement ou avec la question du consentement, aussi bien dans l'Émile que dans la lettre à D'Alembert, qui sont les deux textes où on peut repérer son analyse du consentement, il est moins, j'allais dire, moins égalitaire que Marivaux dans son approche du rapport homme-femme, ou de la possibilité donc de se mettre à égalité d'amour. Ce qui est aussi la question de la vérité, c'est aussi celle-là. C'est-à-dire de ne pas forcer un sexe ou de ne pas s'imposer, etc. Rousseau, c'est compliqué parce que la question de l'aveu est au cœur, mais il y a une sorte de double consentement chez Rousseau, mais à l'intérieur d'un théâtre, si je peux me permettre, de la relation amoureuse, qui est un peu un théâtre guerrier, c'est-à-dire quelqu'un l'emporte, il y a une victoire. Oui. J'aurais dû apporter des passages comme ça de Rousseau. Il faut vaincre, il faut gagner, il faut avoir la victoire, et on ne perd que, et celui qui perd en fait gagne, etc. Donc c'est un jeu qui est tout à fait remarquable dans le rapport, et c'est bien un jeu dans le rapport homme-femme, mais qui reste pris dans l'image de la guerre, ce qui n'est pas du tout le cas chez Marivaux. Et alors, ça donne chez Rousseau l'idée comme ça que, bon, bah, la femme va être séduite. Oui, parce que, petite parenthèse, jusqu'à aujourd'hui encore, vous trouverez dans certains dictionnaires, au mot « consentement » ou à « consentant », que ça se dit d'abord d'une femme.
Ah, oui,
être consentante, c'est très intéressant. Là, il y a quand même un défaut de symétrie homme-femme, y compris dans des dictionnaires très récents. Je ne citerai pas pour ne froisser personne. Mais oui, c'est intéressant de voir que l'absence de réciprocité sur la question du consentement n'a pas disparu donc quelques siècles après cela. Mais pour revenir à Rousseau, il est clair que Rousseau a une version du consentement féminin qui passe par les sens d'abord, puis qui passe par la volonté, mais dans un rapport qui n'est pas de simple réciprocité. Marivaux a introduit une simplicité dans la réciprocité. Donc là aussi, il déplace quelque chose de la dissymétrie entre les hommes et les femmes.
D'ailleurs, cette réciprocité se voit tout simplement dans ses distributions. Dans le théâtre classique, les rôles féminins ne dépassaient pas le chiffre 2, l'héroïne et la suivante. Marivaux, lui, introduit une quasi-égalité entre hommes et femmes dans la distribution des rôles, avec des rôles très importants et moteurs de l'action pour tous les personnages féminins. C'est un changement important pour les comédiennes et...
Pour historienne que je suis des relations entre les sexes et des textes qui s'écrivent, je me promène un peu, mais disons, entre 1650 et 1750, mais si je reprends le texte de John Milton sur le divorce, qui est de 1644, si je ne dis pas de bêtises, où il tente, donc le premier, de dire « le divorce doit être rendu possible par consentement mutuel », on voit que la mutualité du consentement, dans le ligne à ligne, a parfois du mal à se mettre en place, et que finalement ce consentement mutuel, c'est d'abord un consentement qui passera par une décision masculine. Enfin disons, il hésite encore, ça met d'autant plus en lumière la pureté. D'une certaine façon, il y a une pureté dans les mises en place du rapport homme-femme chez Marivaux qui est assez séduisante, parce que une chose, Lucrèce Lachenardière, qu'on peut dire aussi aux auditeurs, car c'est une chose que nous nous sommes dites, c'est que la lecture de Marivaux comme ça est une lecture, on ne lit pas un roman policier, on ne lit pas un roman du 19e siècle, mais on est pris par la nécessité d'aller jusqu'au bout de la lecture de chaque pièce. C'est pas du tout un devoir.
On est accaparé.
On est vraiment pris par le jeu de la lecture de ces textes.
Oui, le lecteur, la lectrice sont happés par la dynamique narrative de Marivaux. Geneviève Fraisse, retournons un moment à Jean-Philippe Rameau. Pour travailler la question de la vérité et de l'amour, Marivaux place dans plusieurs de ses pièces, en particulier dans Le Triomphe de l'amour, le personnage du philosophe face à la question de l'amour. Que devient le philosophe quand l'amour surgit ?
Oui, si Marivaux est mis dans la lignée de la question à laquelle Descartes ne veut pas répondre, au fond, on sait que le rapport entre Marivaux et les philosophes au XVIIIe n'est pas très simple. Et c'est vrai qu'il y a deux occurrences assez passionnantes, hein, pour regarder comment Marivaux décrit le philosophe dans son rapport aux femmes ou dans son rapport à l'amour. C'est évidemment Le Triomphe de l'amour, qui est construit autour de la rencontre du philosophe avec l'amour, justement. Et ce personnage d'Hermocrate, on va aussi le trouver à la fin de La Colonie. Et c'est lui d'ailleurs qui, en briseur de grève, des ventes qu'on retrouve en briseur de grève, ce qui n'est pas inintéressant aussi. Mais d'abord sur Le Triomphe de l'amour, alors c'est vrai qu'on a un philosophe qui vit avec sa sœur, Léontine, et puis un rescapé d'une lignée princière, un jeune homme. Et tout ce petit monde, ces trois personnes se tiennent à l'abri de l'amour, qui est quand même, comme le dit Léontine, donc sa sœur. Donc ils vivent avec sa sœur. Déjà, quand on connaît les histoires d'amour qui existent dans Marivaux, on a tout d'un coup un frère-sœur inattendu, qui, je trouve, mériterait... Enfin, c'est une pièce formidable.
C'est une pièce formidable.
C'est une pièce absolument formidable.
C'est presque un aboutissement, oui.
Oui, oui. c'est éblouissant de finesse. Et c'est vrai que d'avoir une sœur et un frère pour situer, placer la philosophie, c'est quelque chose du rapport fraternel, amical et non pas amoureux qui est déjà là au départ. Puis un jeune garçon qui est sous l'autorité ou la protection de ces deux personnes. Alors Léontine, sa sœur, au moment où elle commence à être courtisée par une jeune princesse déguisée travestie en homme, encore un travestissement, dit « Mon cœur, au ciel, c'est peut-être l'ennemi de mon repos que vous voulez que je consulte. » Donc voilà, ils ont trouvé le repos, enfermés dans cet ermitage philosophique tous les trois, et on voit bien que c'est le cœur qui est donc au plus loin d'une raison, et il faudrait aller consulter son cœur, mais le mot cœur est banni de cet espace. Je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, où le cœur qui est le lieu de la vérité pour Marivaux. Donc on a mis le cœur en jachère, ou en tout cas on l'a extrait de cet espace où vivent ces personnages. Alors, ce qui est magnifique, c'est que cette jeune femme travestie en homme va à la fois séduire la sœur, le philosophe et le jeune prince, celui qu'elle est venue chercher, en fait. Alors, chaque fois, ça marche. Ce qui est absolument magnifique aussi, c'est que au fond, on donne une image. On donne une image au philosophe et à la sœur en dédommagement de l'amour véritable, donc une copie, plutôt que pendant qu'elle, elle veut s'enfuir ou s'envoler avec le jeune prince. Donc le rapport à l'image par rapport à la vérité, ça c'est là encore magnifique. Mais pour en venir au philosophe lui-même, donc il n'a pas trop de mal à se laisser séduire par l'amour et à ouvrir son cœur. Mais Marivaux a placé le philosophe comme celui qui ne veut rien entendre. Du cœur. C'est pas du tout une chose nouvelle. Alors là, pour le coup, on est dans une tradition très ancienne de savoir, discussion du début, Michel Foucault les a fait ressurgir, discussion du début du premier millénaire sur le bien fondé du mariage pour le philosophe. Est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose? Au fond, est-ce qu'il faut de l'éros pour faire de la philosophie, ou au contraire se détourner de l'éros pour faire de la philosophie? Depuis Platon, on répond par les deux, hein. De possibilités. Donc là, on a affaire à une critique de Marivaux, en tout cas, pour qui il ne va pas opposer l'amour et la vérité, comme peut-être certains le souhaiteraient dans cette période-là, disons période début, tout début de ce 18e siècle, qui sera plus matérialiste et plus libertin, peut-être, que la fin du 17e et du début du 18e, qui est celui de la jeunesse de Marivaux. Mais donc, alors, ce qui est intéressant dans cette critique du philosophe, c'est que on ne sait pas, ça n'est pas dit, si sa philosophie peut être atteinte par le fait que son cœur serait ouvert, mais en tout cas, ça détruit l'espace vital dans lequel il était installé, ça sûrement, c'est-à-dire ça introduit du désordre. Je trouve ça d'autant plus intéressant que quand on lit La Colonie, donc cette pièce, cette subversion des femmes contre le pouvoir politique masculin, donc il a là encore aussi une tradition, hein, pièce peu connue d'ailleurs, hein, que moi je n'avais pas, ou si je l'avais connue, je l'avais oubliée. Et comment se termine-t-elle cette subversion des femmes qui disent donc qu'elles veulent participer aux affaires de la cité comme les hommes, décider comme les hommes, qu'elles sont concernées, donc il n'y a pas de raison. Enfin, on a un texte là tout à fait moderne et en même temps qui traverse donc les siècles sur le fait que des femmes se réuniraient pour dire comment est-il possible que les hommes soient les seuls à pouvoir décider de notre vie commune. Et c'est le philosophe qui va détruire cette révolte. Tout à l'heure, je parlais donc de l'une d'entre elles qui veut empêcher l'amour. Alors là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, l'amour est contradictoire avec l'émancipation. Autre lieu commun que nous connaissons bien. C'est-à-dire, si des femmes qui se battent pour l'émancipation des femmes, on leur suppose une vie sexuelle catastrophique. Oui. Qu'il y a une contradiction entre l'amour et l'émancipation. Ça, c'est une histoire que nous connaissons aussi très bien. Et là, qui a nourri aussi beaucoup de textes littéraires, pas seulement politiques ou idéologiques. En tout cas, là, dans cette colonie, c'est donc le Hermocrate qui va réussir à dissoudre cette révolte, c'est non pas la génération suivante, au fond, qui voudrait garder l'amour, contrairement à ce que la mère veut, et qui donc s'opposerait à la mère, c'est-à-dire, parce que la fille résiste quand même, elle cherche un petit peu à préserver son histoire amoureuse. Mais c'est le philosophe, alors comment il s'y prend ? D'une part, il s'y prend de double façon, ce qui est d'une intelligence étonnante. D'une part, il met en scène une situation guerrière, fausse, donc il met comme ça, donc il fait peur. Il fait peur par l'action de la guerre. Et là, tout le monde n'est pas Amazon qui veut. Donc oui. Ces femmes...
Elles sont mises au pied du mur.
Du 18e sont mises au pied du mur. On a connu des Amazones, mais il y en a d'autres. Donc, est-ce qu'on va faire la guerre ? Ben, ça, c'est une question difficile. Et surtout, avant même cette rumeur qui va les détruire, ce front de révolte, c'est la différence de classe. C'est-à-dire, il introduit le fait qu'on va supprimer les différences entre les femmes, donc les différences de conditions. Et il y a toute une fin comme ça. Et finalement, il va donc semer la discorde à l'intérieur du Front uni des femmes.
Divisé pour mieux régner.
Divisé pour mieux régner, c'est une histoire bien connue et qui ne touche pas que le rapport entre les hommes et les femmes. Mais voilà, donc ce philosophe est très malin. Donc il n'a peut-être pas de science de l'amour dans le triomphe de l'amour, et c'est vrai qu'il est bêta dans le triomphe de l'amour, mais je trouve qu'en matière d'intelligence politique, il n'est pas mauvais. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Mais il ne se prononce pas sur le fait de la juste cause des femmes. C'est vraiment une histoire politique, c'est-à-dire comment juguler cette révolte des femmes. Eh bien, voilà. Il suffit de les diviser, de leur faire peur. Voilà ce que fait le philosophe.
Donc il y a quand même beaucoup de cruauté aussi mise en scène par...
De la cruauté. Mais la vérité, est-ce qu'on peut dire que la vérité est cruelle ? Je vous aime, je ne vous aime. Si on revient à la question de l'amour, est-ce qu'au fond, je veux dire, aimer quelqu'un, c'est toujours ne pas en aimer un autre. Et ça, c'est vrai qu'on pourrait lire tout Marivaux avec ce fil rouge, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas aimés. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que chez Marivaux, c'est la réciprocité dans l'amour est quand même très fréquente. Il n'y a pas beaucoup de peine de cœur et de... Finalement, il n'y a pas beaucoup de peine de cœur. Il y a un accord sur l'amour ou sur le non-amour. Voire sur le désamour.
Le fait même de pouvoir choisir, de consentir, finalement, élimine une source de conflit.
Une source de conflit et de souffrance.
Au contraire, après, quand les gens se trouvent, se choisissent, finalement, on voit un certain apaisement.
C'est dans les ruses. Mmh. C'est dans les ruses qu'il y a des jeunes
pour arriver
pas,
à son choix.
Pour
avant,
arriver à son choix, oui.
Avant, voilà.
C'est ça. C'est-à-dire, pendant la dramatisation, on va avoir ce qui est donc l'aveu de soi à soi-même ou l'aveu à l'autre. Il y a des moments où on joue à le « je ne t'aime pas ». Mais pour finir, à la fin, il y a quand même une forte réciprocité. Alors, ce qui m'a quand même aussi intéressée, et je dois dire n'avoir pas creusé la chose, mais en tout cas l'avoir noté, c'est que ces histoires Maître Valet, donc qui sont peu de la critique sociale, contrairement à ce qu'on verra plus tard avec Beaumarchais, il y a un parallélisme assez grand entre l'histoire d'amour de maître et de maîtresse et l'histoire de valet et de servante. Hein, souvent, d'ailleurs, les histoires vont de pair. Il faut que au fond, chacun va aimer sa chacune dans l'histoire de l'autre. Mais il n'y a aucune réflexion morale sur, d'abord, sur ce qu'on vient de dire des ruses. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part aussi sur l'argent. C'est-à-dire que les maîtres, maîtresses, n'arrêtent pas de sortir leur bourse remplie pour acheter les valets qui s'empressent de tromper.
De tromper, parce que
c'est-à-dire
plus
de faire
ils trompent, plus ils gagnent de l'argent finalement.
Oui, plus ils trompent, c'est-à-dire s'ils peuvent se faire payer par les deux côtés.
Voilà, exactement.
C'est parfait. Oui. Donc j'ai cherché une réflexion de Marivaux sur tout ça et j'ai trouvé justement qu'il n'y en avait d'une certaine façon aucune. C'est-à-dire qu'au fond, alors qu'il peut y avoir des réflexions morales sur... Justement, sur l'histoire de la vérité. C'est-à-dire, l'hypocrisie est mal vue, la tromperie est mal vue, l'argent, si on prend le legs, n'est pas l'objet de l'amour. C'est-à-dire, il est mis en second, dans le legs, c'est quand même très très clair. Mais donner de l'argent, que les domestiques puissent honorablement et un peu mieux qu'honorablement gagner leur vie, notamment pour s'établir d'ailleurs, pourquoi pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'on peut distinguer, et je trouverais cela pour ma part intéressant, d'une part la métaphysique du cœur et d'autre part la morale. C'est-à-dire que cette vie entière d'écrivain consacrée au rapport entre l'amour et la vérité, donc à la métaphysique du cœur, comme on dit alors, est une recherche aussi... Bon, j'ai cité Descartes, j'aurais pu citer aussi Malebranche. On dit que Marivaux était grand lecteur de Malebranche. Donc cette recherche de la vérité, hein, on est dans l'héritage du cartésianisme, hein, donc d'une possibilité de la métaphysique, hein, n'oublions pas cela. On a beau être au 18e, on n'est pas encore dans le matérialisme du 18e, pas du tout. Et dans cette, donc dans cette recherche de la vérité, et de le rapport amour-vérité, n'a rien à voir avec la question de la morale. Rien. Et de ce point de vue-là, je trouve très intéressant la recherche, dans ce que j'appelle la pureté, de la recherche d'écriture de l'amour par Marivaux. De ce point de vue-là, Madame de Lambert, hein, est beaucoup plus empêtrée par sa situation de femme, ce que je disais précédemment, elle est plus empêtrée parce que elle a moins de liberté pour dissocier la question de la vérité de l'amour, ou de l'amour comme lieu de la vérité, allez, je crois qu'on peut dire les deux, et la question de la dignité de la jeune femme ou de la femme, donc de quelque chose qui va ramener des considérations morales sur la position féminine. Et peut-être cette question de... Peut-être cet argent que les domestiques prennent si facilement et que les maîtres donnent si facilement, montre bien qu'on n'est pas dans la vérité, la question de la vérité ou de l'authenticité, et celle bien du cœur, c'est-à-dire de l'intériorité de l'être, et non pas celle de la société. Peut-être c'est cela qui serait marquant dans l'histoire du théâtre de Marivaux.
Geneviève Fraisse, je vous remercie pour cette contribution à notre réflexion sur Marivaux. Je rappelle que vous avez publié « Du consentement » aux éditions du Seuil en janvier 2007, « La controverse des sexes » aux presses universitaires de France en 2001, « Les deux gouvernements, la famille et la cité » chez Folio Gallimard en 2001, Les femmes et leur histoire chez Folio Gallimard en 1998, Clémence Royer, philosophe et femme de science, à la découverte en 85 et réédité en 2002, et La différence des sexes aux presses universitaires de France en 1996. Dans La double inconstance, au premier acte, Arlequin et Sylvia se jurent un amour éternel. À la fin de la pièce, Arlequin accepte Flaminia en échange de Sylvia. Sylvia abandonne Arlequin pour se marier avec le prince. Arlequin. J'ai tout entendu, Sylvia. Sylvia. Eh bien, Arlequin, je n'aurai donc pas la peine de vous rien dire. Consolez-vous comme vous pourrez de vous-même. Le prince vous parlera, j'ai le cœur tout entrepris. Voyez, accommodez-vous, il n'y a plus de raison à moi, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous me diriez? Que je vous quitte? Qu'est-ce que je vous répondrais? Que je le sais bien? Prenez que vous l'avez dit, prenez que j'ai répondu. Laissez-moi après, et voilà qui sera fini. Marivaux, La double inconstance, acte 3, scène 10. Ainsi s'achève cette troisième émission du cycle Marivaux, un philosophe et l'amour, qui en comprend quatre, et pour la prise de son et la réalisation, Lucien Pénaud.